Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes un mardi matin, il est 9h et je viens de me rappeler de l'existence de mon podcast. Oui, je suis cette meuf qui vient une fois tous les 36 du mois et qui dit « Salut, j'espère que vous m'écoutez encore !» Et je me suis rendu compte que le podcast, c'est 3 ans ou 2 ans ? Je l'ai lancé en 2019 les gars, 2019, 2021, 2020. Attends, je sais pas compter, j'ai fait L, ok ? Il est 9h du matin, je suis en train de boire mon café, pas de jugement. 2019, 2020, 2021, 2022, c'est ça, 3 ans. 3 ans, et en 3 ans, je n'ai jamais réussi à être régulière ici. Et c'est grave parce que je me posais la question hier soir, et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être régulière ici, alors que, je le répète H24, mais c'est un de mes formats favoris, les podcasts. Si tu me dis de choisir, genre si je dois tout supprimer et choisir deux plateformes ou rester, ça serait YouTube et ici, parce qu'il n'y a rien de plus chill en fait que d'enregistrer un podcast. Genre vraiment, il n'y a rien de plus chill. Tu peux être en pyjama, tu peux être décoiffé. Genre là, vraiment, heureusement que vous ne voyez pas ma dégaine parce que je. Bref, je ne vais pas me décrire, mais je peux être en pige, dans mon canapé, dans mon lit. Peu importe, et j'ai juste à prendre mon micro et à raconter ma vie en fait, et à parler à mes potes, à vous. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je parle assez souvent, sauf que j'ai jamais fait, que j'ai jamais fait un podcast pour vraiment me poser et vous en parler. Surtout que je viens de vivre des trucs ce mois-ci assez fous. Franchement, j'ai eu un mois d'avril, j'ai l'impression que ce mois a duré 6 mois. Il s'est passé tellement de choses que mon cerveau n'arrive pas à assimiler que c'était juste un mois en fait. Je vais aussi commencer en m'excusant pour le son. J'ai décidé de travailler dans mon bureau, enfin. Oui, j'ai un bureau, mais je m'obstine à bosser dans mon lit. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas bien, tu vois, de bosser dans son lit. Il faut avoir deux espaces de travail séparés, blablabla. Donc, je suis dans mon bureau qui n'est pas du tout aménagé. Donc, il y a des échos, quoi. Il y a rien. Il y a une chaise, un bureau et moi. Mais on y travaille. D'ailleurs, il y a une série de vidéos YouTube qui arrive sur la déco, tout ça. Donc, mon mois d'avril, je vais faire un résumé hyper rapide parce qu'en plus, j'ai fait masse de vlogs sur ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez aller checker tout ce qui s'est passé en avril, allez voir mes vlogs. En ce moment, je me régale sur YouTube. Genre vraiment, je me suis pas redécouverte une passion, j'ai toujours kiffé YouTube. Mais là, vraiment, je retombe amoureuse avec le montage. J'aime trop faire le montage de mes vidéos. Je suis dans mon élément en ce moment. Genre, je kiffe mes vidéos et ça, elles vous plaisent, donc tant mieux, je suis très contente. Donc, 1er avril, avec mon amoureux, Louis, on part en lune de miel. Il faut vraiment que j'arrête d'appeler ça une lune de miel, parce que tout le monde va croire qu'on s'est mariés. On ne s'est pas mariés. Genre, je sais pas pourquoi je m'obstine à appeler ça une lune de miel, mais c'est juste que ce voyage était tellement bien. Et le jour, si un jour on doit se marier et qu'on doit partir en lune de miel, pour qu'on arrive au level de ce voyage-là, ça va être très compliqué en fait. Donc je me dis, je considérerai ça comme ma lune de miel toute ma vie en fait, parce que c'était incroyable. On est parti sur une petite île indonésienne qui est à, je crois, environ 3 heures de chez nous, parce que, enfin en voiture, une heure d'avion et une heure de bateau. Donc à 3 heures de chez nous, et c'est le paradis sur terre. Genre vraiment, quand je vous dis c'est le paradis sur terre, pareil, j'ai fait un vlog sur ça et c'était ouf. Franchement, c'était ouf. C'était à base de sable blanc, eau transparente, pina colada à volonté, tortue, poisson violet, rose, bleu. J'ai lu 3 livres en un week-end pour vous dire à quel point. Il n'y avait pas de réseau sur cette île. Genre, ça m'a donné l'envie, enfin, ça m'a fait réaliser à quel point les journées sont longues sans téléphone, les gars. Genre, tout le temps, j'ai l'impression que les journées, elles passent super vite. Mais quand t'as pas de téléphone, quand t'as pas les réseaux sociaux, j'étais là-bas, sur l'île, je vous jure, il était... Parce que du coup, fallait qu'on s'occupe. Quand t'as pas de réseau, faut t'occuper, tu vois. Donc c'était livres, jeux de société, plonger dans l'eau, revenir, se poser, bronzer. Et je me retrouvais à 14h, en mode... J'avais l'impression qu'il était 17h, il était 14h et j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Genre je sais plus quoi faire, je me suis occupée au maximum, la journée est trop longue. Et quand je suis revenue à la maison et que j'ai retrouvé mon réseau, je me suis rendu compte à quel point les journées sont courtes parce qu'on passe trop de temps sur nos téléphones, mais ça encore, je suis pas breaking news, hein, je suis pas la première à le dire, c'est un fait, c'est un fact. Et j'étais grave motivée, hein. Franchement, quand je suis revenue, j'étais grave motivée. J'étais en mode, ouais, je vais passer moins de temps sur mon téléphone, je vais nanana. Et là, checkons mon temps d'écran par jour, juste pour me foutre la honte, encore une fois. Bon, là, c'est le matin, donc... Ah, bah écoutez, je suis pas peu fière. Je suis à 3h41 par jour. C'est incroyable. Généralement je suis à 6-7 heures, mais apparemment ces derniers temps je passe moins de temps sur mon tel. Bah, très contente de le savoir, mais bref, tout ça pour dire que c'est un effort que j'ai essayé de faire ce mois-ci qui n'a pas été franchement glorieux, mais au moins je le sais, quoi. Et je pense que j'essaierai maintenant de partir une fois par mois, explorer, peut-être pas une fois par mois parce que c'est un peu irréaliste, mais une fois tous les deux mois ou j'en sais rien, explorer un petit endroit en Indonésie, parce que c'est vrai que j'ai déménagé à Bali il y a 3 ans, mais c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai pas vraiment trop bougé de là où je suis, en fait, de mon île principale, et il y a plein d'endroits trop, trop cool et pépites à faire autour, donc ouais, bref, et je vous ferai des vlogs là-dessus, évidemment. C'est pas le sujet de la vidéo, là je m'éparpille, mais j'ai envie de vous raconter mon mois d'avril. Donc on part en voyage pendant 5 jours, ensuite on revient. Il y a eu le lancement de ma marque Nublada. D'ailleurs, merci beaucoup mille fois à toutes les personnes qui ont soutenu, qui ont acheté, qui m'ont envoyé des messages. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc vraiment, merci mille fois. Gérer tout ça et... Milieu de mois, voyage imprévu, totalement improbable. Je pars à Coachella, je pars à Los Angeles pendant 10 jours. Pareil, c'était ouf. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Juste, petit disclaimer, je préfère juste toucher un petit mot ici. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de haine et négatifs sur le fait que j'ai pris l'avion et je suis repartie en voyage et j'ai été à Coachella, c'est pas le festival le plus éco-friendly de la Terre, blablabla. Je sais les gars, j'en ai parlé aussi sur Instagram. Je ne suis pas parfaite, voilà, je ne suis pas parfaite, je sais que ça n'excuse absolument rien, et j'entends ce qu'on me dit, franchement, j'entends ce qu'on me dit, et je ne suis pas dans le déni en train de vous dire que vous n'avez pas raison, enfin, les personnes qui me font ce genre de réflexion. Oui, c'est vrai, oui, c'était une décision qui était égoïste, mais je l'assume à 100% parce que je pense ne pas être... On est tous un peu égoïstes dans la vie, on va pas se mentir, il y a des choses que... On ne peut pas être parfait sur tous les points. Quoi qu'on fasse, il y a forcément des choses qu'on va faire qui vont heurter la planète, qui vont ne pas aller dans le sens de tes valeurs H24. C'est juste impossible, en fait. Et je ne pense pas être la pire des personnes. Et je pense surtout que c'est très facile de venir s'en prendre à des personnes comme moi. Parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, quand tu commences à parler de sujets un petit peu engagés, et encore une fois, je ne me considère pas comme engagée, je ne me considère pas comme militante, je parle à mon échelle des choses que je fais, des choses que je change dans mon quotidien parce que ça vient du cœur et parce que je pense que c'est important d'en parler. Mais dès que tu commences à parler de tout ça, en fait, c'est justement, tu deviens une cible. Tu deviens une cible parce que dès que tu fais un petit pas de travers ou dès que tu fais quelque chose qui n'est pas forcément en alignement avec tes valeurs, voilà... On vient t'inonder de haine et de honte sur toi et de bouh. Alors qu'à côté de ça, les plus gros influenceurs de France qui ne font, je vais pas dire de nom, et encore une fois, je suis pas là pour donner de leçons et je n'ai absolument rien contre ces personnes-là. Mais ces influenceurs qui passent leur vie à faire des collaborations avec des marques de fast fashion qui ne parlent absolument à aucun moment de leur engagement pour l'environnement, qui prennent l'avion 6-5 fois par mois, à qui on ne vient absolument rien dire puisqu'ils n'en ont jamais parlé. Et c'est dommage parce que ça fait... En fait, juste moi, je sais que je l'ai vécu. J'ai beaucoup culpabilisé, en fait. J'ai culpabilisé parce que je sais que beaucoup de personnes ont raison. Mais je sais aussi que j'ai le droit, en fait. Je pense que je fais beaucoup, beaucoup de choses à mon échelle. Je pense pas être la pire des personnes. Je suis végane depuis 8 ans maintenant. Tous mes business sont produits... éthiquement, j'essaie de minimiser mes voyages. Je sais qu'on a l'impression que je voyage beaucoup, mais c'est juste parce que je vis en Indonésie, mais je ne voyage pas tant que ça, les gars. Je viens une fois par an en France, et encore, pour voir ma famille, et c'est même pas tous les ans. Et je fais, enfin là, c'était la première fois depuis longtemps que je faisais un voyage très loin de chez moi et où je prenais l'avion enfin pour un long courrier comme celui-ci. Et j'avais juste envie, en fait. J'avais juste envie de me faire plaisir et d'être égoïste et de réaliser un rêve qui était d'aller en Californie, de voir 90% de mes artistes favoris à un festival. Et je vais arrêter de me justifier ici. Voilà, je vais arrêter de me justifier ici. Et en ce qui concerne Coachella, je trouve, c'est mon dernier point, après j'arrête, promis, et on passe au sujet du podcast, mais je trouve que c'est très facile de mettre le doigt sur les personnes qui vont à Coachella quand le problème principal... Attendez, j'ai mon chat qui est à la porte. Viens, mon Kiki. Viens, ma princesse. Viens. Prends mon cœur. T'es où ? Rends, mon amour. Tu peux venir avec nous, viens. Je disais, ouais, c'est très facile de mettre le doigt sur les personnes qui vont à Coachella et qui supportent, entre guillemets, Coachella. Mais ne soyez pas hypocrites. On va pas se mentir, le problème principal, c'est les artistes qui vont à Coachella et qui participent à ce festival. Sans artistes, il n'y a pas de festival. Donc, si vraiment vous êtes si anti-Coachella, comme vous aimez le dire en commentaire de toutes les vidéos... Arrêtez d'écouter vos artistes favoris. Arrêtez d'écouter tous vos artistes favoris qui étaient présents à Coachella. Et voilà. Sauf que je sais très bien que 90% des personnes ne vont pas le faire. Voilà. Donc c'est bien facile de mettre le doigt sur les personnes qui y vont. Mais dans ces cas-là, il faut aussi mettre le doigt sur les actrices, sur les acteurs qui y vont, sur les artistes. Je n'ai vu aucune story où on taguait les chanteurs et les artistes qui participaient à Coachella, mais par contre, des posts avec tous les influenceurs et les machins, ça, il y en a, et c'est un petit peu hypocrite selon moi. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'anxiété sociale. J'en parle assez souvent et vous le savez peut-être, mais ça fait quelques années maintenant que j'ai développé des anxiétés sociales. Alors, je ne me suis pas auto-diagnostiquée, hein, voilà, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « David, tu as des anxiétés sociales ?» Pas du tout, j'ai été diagnostiquée par un professionnel et je voulais vous en parler un petit peu plus en détail parce que bah, du coup, ce mois-ci, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. De fou, parce que ça faisait des années que je m'étais pas retrouvée dans un schéma comme ça, enfin, être entourée de autant de personnes et être enfin, à un festival, parce que j'ai appréhendé beaucoup, beaucoup. La dernière fois que j'étais dans un festival, j'avais 17 ans, les gars, j'avais 17 ans. Et c'était... peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais c'était le Musilac en France, et c'était trop cool, mais voilà, j'étais adolescente. Et depuis ça, ben, y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai vécu plein de trucs pas trop, trop cool. Et c'est aussi là que mes anxiétés ont commencé. Et voilà, donc, autant vous dire que j'appréhendais beaucoup parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout comment j'allais gérer la chose. Et j'ai appris pas mal de trucs pendant ces dernières semaines. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être cool que j'en parle. Peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Mais on va commencer par aller regarder la définition. Donc c'était social, je vais aller checker sur Google parce que moi j'ai une définition dans ma tête de ce que c'est, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop checké. Alors attendez, anxiété sociale définition, regardons un petit peu ce qu'on nous dit. Ah, j'ai une définition. Donc, la phobie sociale, dénommée également anxiété sociale, est un des troubles psychiques les plus fréquents puisqu'il touche environ 5 à 7% des sujets de la population générale. C'est énorme, donc vous êtes pas seuls, les gars. Cette pathologie est définie par une peur excessive et gênante du regard de l'autre dans les situations d'interaction simples ou plus formelles, que ce soit devant un groupe ou une seule personne, avec des conséquences importantes en termes d'anxiété anticipatoire et d'évitement sociaux. Écoutez, très intéressant, je l'aurais pas défini aussi bien, mais en gros, si je devais, parce que je pense qu'on est tous différents, quand on a des anxiétés sociales, on n'a pas tous les mêmes anxiétés sociales. Et ça, c'est important d'en parler parce que je vois beaucoup de gens dont, il y a récemment, là j'ai vu un petit scandale. Je nommerai pas de nom pour pas donner d'importance à ces personnes-là, mais un youtubeur qui a pris la vidéo d'une copine à moi qui parlait justement de sa phobie sociale, de ses anxiétés sociales. Cette personne est modèle, elle est mannequin, et donc ce mec a pris sa vidéo et s'est foutu de sa gueule publiquement en disant que elle était modèle, qu'elle passait sa vie à se mettre en photo sur Instagram, que machin, qu'elle mentait, qu'elle voulait juste de l'attention et qu'elle n'avait absolument zéro anxiété sociale. Qu'on se mette d'accord, et je sais d'ailleurs que ça peut aussi surprendre parce que quand j'en parle sur YouTube ou quand j'en parle sur les réseaux en général, je sais que ça peut surprendre que, bah, qu'une influenceuse, entre guillemets, je déteste ce mot, mais il faut appeler un chat, influenceuse, puisse avoir ce genre de problème dans son quotidien parce que ben, on a l'impression, quand tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu te fais une image de cette personne et tu te dis si elle est sur les réseaux, si elle s'affiche autant, si elle se montre autant, c'est forcément qu'elle est à l'aise. C'est forcément qu'elle est à l'aise, c'est forcément qu'elle est bien, c'est forcément qu'elle est sociale, alors que ça n'a absolument rien à voir. S'afficher sur les réseaux, les gars, c'est très facile. C'est très facile et quand je suis en train de faire des stories devant mon téléphone ou que je suis en train de faire des posts, je suis seule en fait. Je suis seule avec mon téléphone. Le téléphone, c'est un bout de métal avec un écran en verre. C'est pas des gens, c'est pas la réalité. Pareil quand je suis devant une caméra. Quand je suis devant une caméra, évidemment que je suis à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra que devant des gens parce qu'encore une fois, moi quand je me filme devant ma caméra, je suis pas en train de me dire genre il y a 150 000 personnes derrière cette caméra. C'est juste moi. Et ce petit objectif en vert. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des anxiétés sociales, qui trouvent leur réconfort et qui trouvent leur vie sociale, entre guillemets, à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Et c'est hyper facile pour nous ou pour les introvertis en général. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les introvertis ont des anxiétés sociales. Être introverti, ça ne veut pas dire avoir une phobie sociale, hein. Mais c'est très facile, en tout cas pour moi, je sais, de m'enfermer dans cette zone de confort où j'ai l'impression d'avoir une vie sociale parce que j'ai les réseaux, parce que je vous ai vous, parce que je communique avec des gens toute la journée, voilà. Alors que c'est pas, alors que enfin, dans la vraie vie, je vois des potes peut-être une fois par semaine et encore des fois, je peux passer 2-3 semaines sans voir personne si je ne me pousse pas et si je ne me force pas. D'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Je vais vous donner mes conseils et moi, ce que je fais au quotidien, en fait, pour justement entretenir une relation saine avec moi-même et avec comment gérer mes anxiétés au quotidien, quoi. Mais en tout cas, voilà, on a tous, on est tous différents à ce niveau-là. Et quelqu'un qui a des... Il y a plusieurs niveaux d'anxiété, il y a plusieurs intensités. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec et qui arrivent à plus ou moins bien le cacher et qui arrivent voilà, à vivre avec. Il y a des personnes pour qui c'est très très compliqué, qui n'arrivent pas à sortir de leur lit le matin, qui le vivent extrêmement mal. Et c'est quelque chose aussi qui se guérit et qui s'apprivoise. C'est aussi quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. Moi par exemple, pendant mon adolescence, je n'avais aucun souci avec ça. Enfin, j'ai toujours été un petit peu... comment dire ? J'ai toujours eu un petit peu peur du regard des gens. J'ai toujours été un petit peu timide au premier abord. Mais quand je me souviens, en fait, de moi à l'âge de... mes 12 à mes 17 ans, j'étais plutôt sociale et j'avais plus du mal, en fait, à passer du temps seule qu'autre chose. Totalement l'inverse d'aujourd'hui. Et... tout est arrivé, en fait c'est un élément déclencheur qui a fait que je me suis renfermée sur moi-même et qui a fait que j'ai développé ces anxiétés-là. Mais vraiment, à l'époque, j'étais tout le temps avec des gens, j'étais tout le temps à droite, à gauche, je restais très rarement toute seule. J'avais besoin de voir des gens pour me sentir bien et pour me recharger psychologiquement. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut se déclencher à cause d'une période de votre vie. Moi je sais que c'est mes troubles alimentaires qui ont déclenché ça parce que je me suis renfermée sur moi-même pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Donc c'est comme ça que ça s'est déclenché et ensuite c'est resté. Et ça se manifeste très différemment sur tout le monde. Moi je vais du coup parler de moi, comment ça se manifeste chez moi. Et en gros, ce que c'est, parce que quand je dis mes anxiétés sociales, déjà, c'est pas bien de le... Enfin, je sais que j'en ai parlé avec la personne qui me suit, et c'est pas bien de dire mes anxiétés sociales, parce qu'en gros, tu les personnifies ou je sais pas quoi. Donc, je suis censée dire les anxiétés sociales. C'est pas les miennes. Voilà. Mais en gros, moi, ce qui se passe, c'est que c'est plus l'appréhension. En gros, je suis pas... comme je le disais il y a 5 minutes, il y a des personnes pour qui c'est hyper naturel de passer du temps avec des gens. Il y a des personnes qui en ont besoin, et je pense qu'on appelle ça les extravertis. Mais en gros, tu travailles la semaine et t'as qu'une hâte, c'est d'être le week-end ou d'être le soir pour aller boire un verre en terrasse avec tes potes, pour aller en soirée, pour machin, et pour passer du temps avec des gens. Et ça, en fait, quand tu passes du temps avec des gens, c'est ce qui te fait du bien. C'est ce qui fait que tu te sens bien et que tu recharges ton énergie, voilà. Et à l'opposé, t'as les introvertis, comme moi, qui justement n'ont pas forcément... Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça me prend énormément d'énergie de voir des gens déjà de base, sans compter les anxiétés à côté, hein. Mais de base, je sais que... Enfin, c'est pas quelque chose... J'adore passer du temps avec des gens, attention, hein. Ne prenez pas le truc à l'inverse, parce que là, on dirait que je déteste tout le monde. Pas du tout. J'adore passer du temps avec les gens, et c'est une de mes choses favorites, parce que je pense que bah, la vie, c'est un petit peu fait pour ça, c'est pour le partage, et que, justement, en fait, quand tu restes trop seul, bah, t'apprends pas grand-chose, parce que je pense que là où on apprend le plus, c'est des autres. Donc, bref. C'est juste que moi, ça me vide de mon énergie. Voilà, je rentre d'une soirée ou je rentre d'un après-midi avec quelqu'un et j'ai besoin de mon temps seul. J'ai besoin de mon temps seul. Et du coup, revenons à mes anxiétés parce que ben, ça n'a absolument rien à voir ce que je viens de dire. Mais par exemple, moi, ça se manifeste une interaction sociale normale. Tu donnes rendez-vous à un pote et tu vas le voir et voilà. Moi, en fait... Je pense à des choses, à des détails qui vont vous paraître peut-être totalement absurdes, mais je vais me mettre à stresser et à angoisser sur des choses comme par exemple le simple fait de dire bonjour. Je vais réfléchir, enfin en fait ça va juste m'angoisser de me dire comment je vais dire bonjour à cette personne. On va se voir, on va se rejoindre là ou là, ça se trouve elle va être avec des gens, ça se trouve ils seront tous assis à une table ou j'en sais rien. Comment je vais arriver et m'introduire dans le groupe de personnes ou comment je vais dire bonjour? Est-ce qu'on va se faire la bise? Est-ce qu'on va se serrer la main? Est-ce qu'on va juste genre rien faire? Est-ce que ça en fait, ce genre de détails là, c'est ce qui va moi me stresser et m'angoisser et ce qui va faire que je vais presque ne pas avoir envie d'y aller en fait. C'est aussi simple que ça et c'est des petites choses comme ça. Ça va être aussi le fait de je vais trop penser. Je vais être dans un groupe de personnes et je vais me dire ok, mais est-ce que je vais avoir des choses intéressantes à dire? De quoi on va parler? Qui va commencer la conversation? Est-ce que je devrais parler de ça? Est-ce que là je parle trop de moi? Est-ce que juste toutes ces questions qui viennent dans ma tête et qui sont trop en fait, qui sont trop et qui vont te mettre à te stresser, à t'angoisser, tu vas commencer à avoir des palpitations. Moi, je sais que je me rends compte que je suis en train de rentrer dans cette bulle d'anxiété quand je suis dans une situation sociale et que j'ai l'impression de plus vraiment être là, en fait. Je suis là, mais c'est un petit peu comme si j'étais en mode sourdine et que je regardais ce qui se passe autour de moi, mais je suis plus vraiment là et je me mets à stresser, je me mets à angoisser, je me sens plus à ma place. Je me sens plus à ma place et j'ai besoin de partir. J'ai besoin de partir et en gros, voilà, c'est des trucs totalement, totalement bêtes comme simplement regarder quelqu'un droit dans les yeux quand il me parle. Ça aussi, c'est un truc que j'ai depuis assez longtemps, mais pour moi, c'est compliqué de discuter avec quelqu'un en face de moi et de le regarder droit dans les yeux quand il me parle. Et des fois, ça peut avoir l'air, je sais très bien que des fois, ça peut avoir l'air pas méchant, mais on peut avoir l'impression que je m'en fous en fait de ce que tu me racontes. On peut avoir l'impression que je suis complètement ailleurs et que je m'en fous. Alors que pas du tout. C'est juste que j'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux quand il me parle. J'y arrive avec des gens avec qui je suis très proche. Mais au premier abord, c'est très compliqué. Et aussi quelque chose qui me... Enfin, ça me met mal à l'aise, par exemple, quand je rencontre une ou un abonné. Généralement, c'est des filles. Mais par exemple, je suis venue à Paris en décembre. Et bon, attention, hein, je suis pas une star internationale, mais j'ai quand même croisé quelques abonnés. Ça me fait trop plaisir à chaque fois que je croise des abonnés. Mais à chaque fois que je croise quelqu'un et qu'on finit la discussion, à la fin, je suis en mode « Mais TJ, mais c'est pas possible. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es si bizarre, en fait? Pourquoi t'es si bizarre avec les gens ?» J'ai juste l'impression d'être bizarre avec les gens. J'arrive pas à avoir une interaction fluide et normale. Parce que, je sais parce que c'est comme ça, voilà, parce que c'est comme ça. Et voilà, en gros, comment ça se manifeste chez moi. J'ai moins de grosses crises comme à l'époque. Il y a vraiment eu une période, en fait, surtout l'année dernière, où j'avais vraiment des crises d'angoisse parce qu'en fait, je me sentais pas en sécurité. Attendez, je suis en train de brancher mon ordinateur parce qu'on n'a plus de batterie. Il y a eu une période l'année dernière où ma plus grosse angoisse, en fait, c'est que je me sentais pas en sécurité avec les gens avec qui j'étais pas forcément très proche. Ça veut dire que je me retrouvais en soirée avec des gens et j'avais l'impression que ils me connaissaient pas assez pour que je sois en sécurité, et je me sentais pas, si la personne avec qui j'étais ne savait pas que j'avais des problèmes d'angoisse, je me sentais pas en sécurité. Et ça, c'était hyper handicapant parce que tu peux pas te reposer en fait sur les gens constamment pour te sentir en sécurité. Et ça, pareil, on va en parler dans les conseils que j'ai à vous donner, mais tu peux pas avoir tout le temps une assistante à côté de toi, ou un assistant, un pote, une pote, ou ton chéri, ou peu importe, qui est la personne qui te connaît le mieux, qui sait comment gérer tes angoisses, mais cette personne, en fait, elle peut pas être tout le temps à côté de toi. Elle peut pas être tout le temps là, et il va falloir un jour ou un autre que tu apprennes à te débrouiller seule. Et du coup, c'est ce qui s'est passé là quand je suis partie à Coachella, parce que je suis partie avec ma copine Alaya, avec qui je suis jamais partie avant. Donc c'était notre premier voyage ensemble. Et encore une fois, avec Alaya, on se connaît plutôt bien. Enfin, ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît et on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Mais c'est vrai que elle a jamais été témoin de moi qui fait une crise d'angoisse. Enfin bref, juste pour moi, c'était sortir de ma zone de confort parce que je pars à l'autre bout du monde avec une personne qui n'a pas forcément l'habitude, qui n'est pas, entre guillemets, ma bouée de secours. J'aime pas utiliser ça, mais encore une fois, on en parlera après, c'est pas bien de faire de ton entourage ta bouée de secours, de faire de quelqu'un ton pilier, entre guillemets, parce que c'est, sur le long terme, c'est toxique parce que ça veut dire que quand tu te retrouves avec toi-même, tu te sens pas en sécurité. Mais bref, pour moi, c'était sortir de ma zone de confort. Et au final, tout s'est très bien passé. Donc, trop cool, tout s'est très bien passé. Et je voulais revenir du coup rapidement sur le festival en lui-même, Coachella, et comment en fait j'ai vécu le fait d'être entourée de autant de personnes. Faut savoir que je savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que Coachella, ça a jamais été dans ma liste des choses à faire dans la vie. Genre, c'était pas un festival que je voulais absolument faire. J'avais pas du tout prévu d'y aller, ni cette année, ni dans les années qui arrivaient. Donc c'était vraiment un truc totalement imprévu. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, et je m'attendais à quelque chose de grand. Je m'attendais à quelque chose avec beaucoup de gens, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand et avec autant de gens. Quand je vous dis que c'était... En fait, c'était presque surréaliste. C'est pratiquement surréaliste. Et d'ailleurs, je l'avais entendu. Enfin, j'ai des personnes qui m'ont DM, qui étaient allées au week-end numéro 1, et à qui j'avais posé des questions avant d'y aller, en demandant, enfin, genre, comment c'est. Ça m'angoisse un peu parce que je suis pas forcément hyper à l'aise entourée de trop de personnes. Comment c'est. Et tout le monde me disait la même chose, que c'était tellement grand, en fait. Il y avait tellement de gens que t'avais pas l'impression que c'était la réalité. Et c'est le cas. Franchement, c'est le cas. C'est juste immense. Le bordel est immense. Il y a 7 scènes pour aller de scène en scène. Tu marches. Je sais pas combien de kilomètres tu fais par jour quand t'es à ce festival. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un truc de malade. Et le nombre de personnes, n'en parlons pas. C'est même pas... Ça paraît même pas réel. C'est une ville. Le truc, c'est une ville. Et bizarrement, je ne me suis pas vraiment sentie anxieuse, pas, j'allais dire pas une seule fois, si, il y a une fois où je me suis sentie pas super bien et j'ai eu besoin de sortir de la foule. C'est justement, en fait, voilà, quand je me suis retrouvée en plein milieu de la foule, ce que, évidemment, je ne conseille pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'y ai pensé au moment où on allait dans la foule, que j'allais sûrement pas supporter d'être bloquée, en fait. Mais ça, c'est pas vraiment question d'anxiété sociale, c'est que tout le monde peut être stressé par le fait d'être bloqué dans une foule. C'est juste trop, en fait. C'est juste trop. Donc, ce qui est bien à Coachella, c'est que tout est très grand, donc tu as toujours l'option de te mettre un peu en dehors de la foule, dans un espace où il y a plus de place, tout simplement, et tu peux toujours apprécier le concert, tu peux toujours voir sur les grands écrans. Certes, tu vois peut-être pas l'artiste de tes propres yeux parce qu'il est genre un mini-moi sur la scène, quoi, mais t'as quand même le confort de pouvoir respirer, de pas être tout le temps collé aux gens parce que c'est tellement immense que c'est juste... T'as de l'espace. T'as de l'espace. Et deuxième chose, les gens sont majoritairement sobres. Et je pense que ça joue beaucoup parce que moi, j'avais une expérience d'un festival quand j'avais 17 ans. Et autant vous dire qu'à ce festival, les gens étaient loin d'être sobres. T'avais des gens bourrés de partout, t'avais des gens sous drogue de partout. Et encore une fois, aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Mais j'avoue que moi, c'est pas un truc qui me met super à l'aise parce que quand les gens ne contrôlent pas leur action, moi, c'est pas un truc qui me met super à l'aise. Et c'est vrai que à Coachella, bah, déjà le fait que l'alcool coûte très cher, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bourrés. Il doit sûrement y avoir quelques personnes qui prennent de la drogue, mais franchement, enfin, l'ambiance générale du festival, elle est quand même hyper calme et respectueuse. Et je sais que c'est pas pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui viennent à Coachella et qui sont un peu déçus de l'ambiance générale, parce que c'est vrai que quand t'es dans le public, en fait, les gens regardent plus les shows comme un spectacle que... Alors, tout dépend de quel show tu vas. Évidemment qu'il y a des foules qui dansent, il y a des foules qui... Voilà. Mais généralement, c'est vrai que l'ambiance est assez calme et que les gens sont pas tous là en train de se pousser, en train de se bousculer, en train de se marcher dessus, etc. Et tout est assez, voilà, respectueux. Donc ça, c'était franchement cool. Donc franchement, je pense que j'ai été chanceuse de enfin, entre guillemets, refaire un festival après tant d'années et de commencer par Coachella. Je pense pas que je retournerai à un festival très, enfin d'ici peu quoi. Je pense que voilà, je sais pas quand est-ce que j'irai dans un festival, mais c'est sûrement pas cette année ni l'année prochaine ni voilà. Mais ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que c'était pas forcément hyper angoissant et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vraiment, personnellement, moi, les anxiétés, elles surgissent quand je suis dans un groupe plus petit. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai pas besoin d'avoir d'interaction avec une personne, quand j'ai pas besoin de parler aux gens, bah en fait ça va. En fait, ça va. Je me suis rendu compte que vraiment mon problème principal à moi, c'est communiquer avec les gens, m'introduire dans un groupe de personnes, faire des nouvelles connaissances. Comme je vous ai dit, en fait, c'est juste que je pense trop. Je pense trop au confort de l'autre, de me dire est-ce que là je l'écoute assez, est-ce que là je parle pas trop, est-ce que je devrais genre lui laisser un petit peu d'air, est-ce que je suis trop tout le temps en train de je pense trop en fait, je pense trop, ce qui fait que la communication en fait elle est juste pas forcément naturelle. Et donc ouais, quand j'ai pas besoin d'avoir d'interaction forcément avec la personne, je me suis rendu compte que ça va, j'ai appris à... J'ai plus vraiment ce problème de la peur du regard des autres et corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais je pense vraiment qu'il y a une différence entre avoir peur du regard des gens et être mal à l'aise et avoir des anxiétés sociales. Je pense que ça se combine et je pense qu'il y a des gens qui ont un combo des deux, ce que j'avais beaucoup à l'époque quand j'étais encore dans les troubles alimentaires parce que je me détestais tellement physiquement que, en plus d'avoir peur de ce que pensent les gens de moi, j'avais aussi cette angoisse de pas être assez bien, de pas me sentir intéressante, de pas... Ce manque de confiance en moi, c'est vraiment ce qui a forgé de base, en fait, ces anxiétés. Mais aujourd'hui, je peux le dire, c'est que le regard d'un inconnu, enfin, ce que pense un inconnu de moi, je vous avoue que c'est la dernière de mes priorités. Genre... Vraiment, ce que pense un inconnu de ce que je porte, de mon corps, de mon apparence, c'est la dernière chose qui m'intéresse et je m'en tape. Je m'en tape totalement. Alors, oui, je pense que il y a une part d'hypocrisie dans ce que je dis parce qu'on est tous un petit peu... On peut pas être à 100% en mode « je m'en fous de ce que les gens pensent de moi ». Non. Pas du tout. Genre, quand je sors de ma chambre d'hôtel le matin, que je suis décoiffée en mode pyjama et que j'ai mes grosses lunettes de soleil sur la tête parce que j'ai pas envie que les gens voient ma gueule du matin, par exemple, voilà, c'est un exemple du que je m'en fous pas à 100%, tu vois. Je m'en fous pas à 100%, mais c'est pas quelque chose qui m'affecte, en fait. C'est pas quelque chose qui m'affecte parce que, vraiment, aujourd'hui, je suis arrivée au stade où mon corps C'est mon souci, c'est mon souci à moi. Mon corps, c'est moi et moi, et c'est pas les autres. Ma priorité, en fait, c'est juste de me sentir bien, moi avec moi-même. Et ce que les gens ont à dire, c'est plus un problème. Donc là, en fait, de me retrouver entourée de personnes que je ne connais absolument pas, d'inconnus, je pensais que ça allait être angoissant pour moi. Mais pas du tout, parce qu'en fait, j'avais pas besoin de communiquer avec ces personnes. C'est pas, enfin, je veux dire, l'ambiance en général fait que tout le monde arrive avec ses potes, tout le monde a déjà ses groupes, etc. Et c'est pas, ouais, c'est, je pense que tu peux, hein, te faire des nouveaux potes dans des festivals et que tu peux faire connaissance avec des gens. Mais moi, c'était pas mon goal principal. Encore une fois, je sais que ça fait hyper insocial, mais c'était pas mon goal principal. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément eu besoin d'avoir d'interaction avec des inconnus. Donc, au final, j'ai pas tant angoissé que ça. Et j'ai aussi pu me rendre compte, du coup, de vraiment mon souci au quotidien, c'est justement que je suis trop dans cette zone de confort à me restreindre à deux ou trois personnes qui sont mes piliers, entre guillemets. Et j'ai un peu du mal à m'ouvrir aux autres. C'est pas du tout par rapport aux personnes. C'est pas du tout que j'aime pas les gens. C'est pas du tout que j'ai peur des gens, entre guillemets. C'est juste que, en fait, hier j'écrivais un truc dans mon journal. Attendez, je vais voir si... Je pense que ça peut avoir... Enfin, ça peut avoir du sens avec ce que je suis en train de dire. Mais j'ai écrit quelque chose où j'ai écrit... Donc je l'ai écrit en anglais parce que je fais la meuf dans mon journal et que j'écris tout le temps en anglais. Mm-mm. Mais en gros, j'ai écrit... Don't focus on how people perceive you, but how people feel when they are around you. En gros, j'ai écrit, je traduis. Je sais pas pourquoi je l'ai lu en anglais, je fais vraiment la meuf. Hein. Afida Turner, sors de ce corps, encore une fois. Mais en gros, ne te concentre pas sur comment les personnes te perçoivent. Comment les personnes te perçoivent. Mais concentre-toi plutôt sur comment les personnes se sentent quand elles sont autour de toi. Je pense que ça, c'est... quelque chose en fait que simplement j'ai développé, encore une fois, quand j'ai eu ces troubles alimentaires, quand ça s'est enchaîné avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, plus après ces années, entre guillemets, pas ces années de confinement, mais on a eu 2 ans dans notre vie où on n'a pas pu vraiment être à 100% sociable, voilà. Et j'ai eu pendant des années tellement peur du regard des gens et de la façon dont les gens me perçoivent, et j'ai eu tellement d'années en fait où je me suis dénigrée moi-même, où je me suis sentie pas assez intéressante, pas assez ci, pas assez ça, pas assez cool, pas juste tellement de remise en question constante avec moi-même que je me sentais pas assez en fait pour les autres, et donc je me concentre trop sur comment les gens vont me voir, quelle est l'idée qu'ils vont se faire de moi-même. Encore une fois, on parle pas du côté physique, mais on parle du côté de ma personnalité, en fait. Tout simplement. Je sais que c'est totalement... Enfin non, en fait, c'est pas absurde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. C'est juste que moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui ont aussi ces problèmes-là et à qui vraiment... avec qui je peux échanger. Mais... en gros, voilà, mon souci principal, je me suis rendu compte que mes anxiétés, elles étaient majoritairement focus sur le fait que j'ai peur de pas être assez cool, j'ai peur de pas plaire à quelqu'un, et j'ai cette envie au fond de moi, et ça c'est depuis que je suis petite, et je le sais, c'est que j'ai envie que tout le monde m'aime. Et sauf que ça, c'est impossible. C'est impossible. Et donc la phrase que j'étais en train de dire avant, c'est que maintenant, en fait, mon goal principal... quand je vais par exemple, voilà, demain je sais que je vais sortir en soirée, voir des gens, etc., et je veux plus me focus sur comment les gens me perçoivent, mais comment elles se sentent quand elles sont avec moi. Et je pense que ça, c'est ce qu'on devrait tous se dire. Et ça, en tout cas, enfin moi, quand je pense comme ça, ça m'enlève un gros poids des épaules, parce que la seule chose sur laquelle j'ai à me concentrer, c'est juste être moi et rendre heureux, enfin pas heureux, mais rendre à l'aise les gens qui sont avec moi. Et comme je disais juste il y a quelques secondes, dans tous les cas, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu pourras pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne te plaît pas à toi. Et c'est pas quelque chose de négatif. Enfin, je veux dire, il y a des personnes avec qui je m'entends pas, mais ça fait pas d'elles des mauvaises personnes. Genre, les personnes que... C'est ça, en fait, que j'essaye de me dire aussi, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Et genre, moi, là, tu me demandes de te dire des personnes que je déteste. Je déteste pas, peut-être pas personne, en fait. Je peux pas te dire quelqu'un que je déteste parce que je perds pas mon énergie à détester quelqu'un. Si je m'entends pas avec une personne, certes, on est humain, je juge, hein. Voilà, on va pas, je vais pas faire la meuf. Moi, je juge personne, j'aime tout le monde. Non, hein, c'est humain. T'as des jugements qui se font dans ta tête et tu juges les gens. Voilà, tu juges les gens, mais c'est des jugements que je vais garder pour moi. Et c'est pas des personnes que je vais pas, j'ai pas d'énergie à perdre à détester quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. On s'entend pas, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les, on est juste différents et on n'est pas fait pour être dans le monde de l'autre. Voilà, tout simplement, on n'est juste pas fait pour être connecté, c'est tout. Et c'est pareil avec les gens. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise autour de moi, si quelqu'un n'a pas forcément d'accroche avec ma personnalité, si quelqu'un ne m'aime pas, en fait, tout simplement. Tu vois, même ça, j'ai du mal à le dire. De me dire qu'il y a des gens qui m'aiment pas, ben ça me... Je sais pas pourquoi ça m'affecte autant, en fait. Et c'est un truc sur lequel je travaille. Voilà, là, je suis en train de vous faire un podcast pour vous en parler, mais ça veut pas dire que c'est des choses que j'ai réglées à 100% avec moi-même. Mais je veux plus, en fait, avoir peur que les gens ne m'aiment pas parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire et il y aura toujours des gens qui vont pas t'aimer, qui auront des choses à redire sur tes actions, sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Et ça fait partie de la vie. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. Ça soulage d'un gros poids. Vraiment, ça me soulage. Je me dis, écoute, tu fais ton mieux. Tu vas à cet événement, tu vas à cette soirée, tu rencontres ces nouvelles personnes. Et puis, se passe ce qui se passe, si ces personnes te trouvent bizarre, si ces personnes ne t'intègrent pas à leur groupe, si... Ben écoute, c'est juste que c'était pas fait pour se passer comme ça. Et puis même si ça t'angoisse, et puis même si t'es stressé, t'auras fait de ton mieux. Voilà. T'auras fait de ton mieux. Et je pense que c'est aussi important de te mettre dans la peau de la personne avec qui t'aurais aimé comment expliquer ça ? En gros, par exemple, je vais être dans une situation sociale avec des gens que je connais pas forcément super bien ou avec qui, tu vois, enfin, tu traînes peut-être une fois par mois à des soirées ponctuelles, etc. Pas des personnes, voilà, que tu connais très très bien. Je me mets dans la peau de la personne avec qui j'aurais aimé être pote. Quand je vois que quelqu'un est un peu hors du groupe ou quand je vois, je vais aller vers cette personne et je vais essayer de l'intégrer, par exemple. Enfin, des petites choses comme ça, en fait. Si, par exemple, tu vois que vous êtes en cercle, vous êtes assis et qu'il y a une personne qui est un petit peu à l'écart, tu lui fais un peu de place et tu l'intègres et juste... agir avec les gens comme t'aurais aimé qu'ils agissent avec toi, ça va aussi faire beaucoup. Genre moi, je sais que pendant un moment, en fait, je me renfermais tellement sur moi que je me demandais, en fait, ben pourquoi les gens ils agissent pas d'une certaine façon avec moi, alors que je me suis rendu compte que tout simplement j'avais la réflexion de ce que moi, de la façon dont moi j'agissais. Très souvent, on est aveuglé, en fait. On est aveuglé par nos soucis à nous et par ce qui se passe en nous, et du coup on se pose pas vraiment, on se renvoie pas forcément la balle et on se regarde pas forcément, on voit pas forcément la façon dont on agit. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, surtout quand t'as des anxiétés et que c'est très dur pour toi de même prendre la parole, hein, parce que des fois ça peut aller jusque là, t'es tellement angoissé, t'as tellement que t'as juste peur de prendre la parole, et tu rentres chez toi et tu te dis pourquoi personne m'a adressé la parole. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi si? Pourquoi ça? Juste pose-toi la question inverse. Pose-toi la question inverse. C'est comme quand tu envoies un message à un pote à qui tu dis « Ouais, ça fait des mois que t'as pas pris de nouvelles de moi, je comprends pas. » Mais est-ce que toi, de base, est-ce que t'as pris des nouvelles de cette personne? Tu peux pas attendre des autres des choses que tu ne fais pas déjà de base, en fait. Tu peux pas... Rien ne t'est dû, et moi je pense, en tout cas aujourd'hui, je sais que ce que je rejette, c'est ce que je reçois, et des fois c'est pas le cas. Des fois tu vas être très généreux avec des gens, des fois tu vas être très gentil avec des gens, et tu vas pas recevoir ça en retour, mais c'est pas grave. Ne fais pas les choses pour recevoir en retour, mais juste, tu vas être plus... C'est plus probable que tu reçoives, je parle plus français là, ou je suis perdue dans ce que je dis, mais c'est plus probable, voilà, que les gens te rendent ce que tu rejettes plutôt que l'inverse. Bref, finissons du coup cet épisode avec des petits conseils de moi à moi. Et on va commencer par mes conseils. Si par exemple vous avez un événement, un concert, un festival ou n'importe un endroit où vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous, j'en sais rien, peut-être un mariage ou peu importe, et que ça vous stresse et que ça vous angoisse, voici mes petits tips. Première chose, je pense que c'est important d'en parler avec quelqu'un qui va être avec toi. C'est toujours une sécurité psychologique, mais de te dire, ok, je vais, j'en sais rien, à cet événement avec cette personne, je vais lui dire quand même à l'avance que j'ai ce problème-là et que machin, et comme ça, au moins, la personne sera prévenue et tu sais que, voilà, cette personne, elle est au courant. Si t'as besoin d'un moment pour toi et de t'échapper un petit peu et de respirer et d'être en dehors de la foule ou quoi que ce soit, tu peux. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va surprendre la personne avec qui tu es et c'est important de le dire. Faire les choses petit à petit. Genre, faut pas que tu te sentes mal de pas forcément être prêt, par exemple, à rester, j'en sais rien moi, toute une soirée avec des gens. Moi, je sais que d'un côté, c'est quelque chose qui est un peu chiant, mais je me mets toujours une option, en fait. J'ai toujours une option, une sortie de secours. J'appelle ça une sortie de secours. Genre, je sais que dans tous les cas, je vais à cette soirée ou je vais à cet événement et j'ai une issue de secours. J'ai toujours une option en tête, une excuse ou une raison valable où je sais que je peux m'échapper de cette situation et ça peut paraître un petit peu, voilà, encore une fois, asocial ou peu importe, mais c'est important pour moi de juste me dire que dans tous les cas, si je me sens pas bien, si j'ai l'option de partir, je peux partir et je suis pas bloquée dans cette situation. Apprendre à dire non aussi, très important. Je sais que moi par exemple, mon problème de vouloir être aimée par tout le monde, ça me pousse très souvent à dire oui à des choses auxquelles j'ai envie de dire non et je me retrouve dans des situations où je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Qu'est-ce que je fous là ? Je voulais pas être là de base, mais j'ai dit oui parce que je voulais faire plaisir, parce que j'avais juste simplement peur de dire non. Et du coup, tu te retrouves dans des situations dans lesquelles t'as pas envie d'être. Et donc, dire non, ou dire simplement j'ai envie de rentrer chez moi, ou sans te justifier, sans avoir d'excuses, ou de juste sans te justifier et de dire j'ai simplement pas envie. Voilà, je sais que c'est compliqué et que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et même moi encore aujourd'hui j'apprends à dire non, j'apprends à dire ce que je pense. Pareil, ça, j'ai tellement peur de froisser les gens que souvent je dis pas ce que je pense et je dis pas ce dont j'ai pas envie. Je suis une, comment on appelle ça en anglais, on dit people pleaser, mais voilà, je veux faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est pas cool, c'est pas ouf pour toi parce que tu vas mettre le confort des autres avant le tien. Et des fois, c'est sympa, mais des fois, c'est juste pas cool. Donc voilà, apprendre à dire non, c'est aussi préserver ton énergie. Quitte à passer pour la meuf chiante, la meuf ennuyante de service ou peu importe, mais ne pas te sentir obligée de tout le temps dire oui, ok, amen à tout. Faire des petits exercices de respiration ou juste une... Moi, j'appelle ça une méditation, mais alors je suis nulle en méditation. Vraiment, moi, j'ai vraiment du mal, en fait, à fermer les yeux et à me poser pendant 10 minutes et respirer sans penser. Enfin, c'est juste trop compliqué pour moi. Mais j'appelle ça ma forme de méditation. Mais tout le temps, en fait, quand je suis dans un stress ou dans une angoisse d'être avec des gens, je vais me poser dans mon lit avant de partir. Je vais fermer les yeux et juste, je me dis... Au pire des cas, genre, c'est pas la fin du monde. Au pire des cas, même si t'es bizarre, même si tu fais une bise chelou à quelqu'un, même si tu sais pas quoi dire, même si t'es pas drôle, même si personne rigole à tes blagues, même peu importe ce qui se passe, on s'en fout. On s'en fout parce que, enfin, je veux dire, si ton problème principal dans la vie, c'est d'avoir peur de pas être assez cool ou de pas être assez bien pour les autres, enfin, je veux dire, ça peut pas être hyper bête et encore une fois, je suis pas en train de... Tous nos problèmes sont valables, tous nos soucis, nos petits soucis dans la vie. Je suis pas en train de diminuer les problèmes, pas du tout, mais juste moi, je sais que ça me rassure en fait. De me dire que ça n'a aucune importance. Enfin, je veux dire, ça a vraiment pas, c'est vraiment pas aussi gros que tout le stress que t'es en train de te mettre. Au final, c'est que pour ça. C'est juste parce que t'as peur de pas être assez bien, de pas être assez cool pour d'autres personnes. Et ça, au final, quand tu le mets à la grande échelle des problèmes de ta vie ou de machin, c'est pas la pire des choses. C'est pas le plus gros des problèmes. Voilà. Et ça, moi, je sais que ça me rassure et je me dis, voilà, au pire des cas, j'y serais allée et je me serais poussée. Et on va venir du coup au dernier conseil. Je suis désolée si mes conseils sont pas ouf. Hein. Encore une fois, je suis pas une professionnelle. Je partage simplement ce qui moi m'aide au quotidien. Mais autre chose, c'est de me forcer. Alors, forcer, c'est un mot hyper négatif et ça peut sonner hyper négatif. Mais en gros, le truc, c'est que moi, je fais partie des personnes qui, si je ne me force pas à avoir des interactions sociales, si je ne me force pas à sortir, à voir des gens, à aller boire un café, à aller marcher quelque part, ou voilà, si je ne me force pas à avoir des interactions sociales, je ne le fais pas, tout simplement. Je ne ressens pas forcément l'envie, je ne ressens pas forcément le besoin. Comme je l'ai dit avant, c'est plus une source de stress pour moi. J'ai tendance à beaucoup annuler les choses. Et ça, c'est un truc que j'essaye aussi de changer. Il y a un moustique qui me tourne autour et qui fait que me piquer depuis tout à l'heure. Attendez, laissez-moi mettre du spray. Parce que ça aussi... Ah, les moustiques à Bali, c'est un délire. Hein. En plus, c'est pas les moustiques de France, hein, les gars. C'est pas les moustiques de France. C'est les bons gros moustiques qui sont hyper agressifs, là. Ah, putain. Pardon. Ah, maintenant, je pue la citronnelle. Ça aussi. Pourquoi ils n'inventent pas des sprays à moustiques qui puent pas la citronnelle? Bref. Je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Merde, je me suis perdue dans ce que je disais. Je disais que oui, voilà, pour moi c'était plus. J'ai tendance à annuler. Je suis la personne qui va te dire oui parce qu'elle te dit oui, parce qu'elle n'ose pas te dire non, et qui au dernier moment, genre un jour avant le rendez-vous ou même une heure avant le rendez-vous, va trouver une excuse pour te dire ah ben finalement non, je peux pas ou machin ou truc. Et c'est des excuses bidons généralement, et la personne sait que c'est des excuses bidons. Et je suis encore une fois pour le fait de t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non, t'as le droit d'annuler quelque chose au dernier moment, etc. Mais il faut aussi prendre en compte que des fois, les gens n'ont pas ton temps, tu vois. Il y a des gens qui prévoient leur journée autour de quelque chose, qui ont prévu quelque chose dans leur agenda, et c'est sympa d'annuler une fois, deux fois, trois fois, mais c'est au fil du temps, à force de foutre des faux plans à tout le monde, que... Ben, tu vas peut-être perdre des personnes qui sont importantes pour toi ou qui sont intéressantes, avec qui tu aurais pu avoir des amitiés super cool, parce que justement tu es tout le temps en train d'annuler. Et c'est dans ces situations-là que moi je sais reconnaître quand je pourrais faire un effort et quand je pourrais me forcer, entre guillemets, parce qu'au final je me sens mieux après. C'est comme un peu l'exemple d'aller à la salle de sport. Quand tu commences à aller à la salle de sport ou quand tu commences à te mettre au sport, au début c'est chiant. Au début, tu te forces, on va pas se mentir. Tu te réveilles pas du jour au lendemain en mode motivation, j'ai envie d'aller au sport tous les matins, j'ai envie de manger sain, j'ai envie de boire mes jus verts. Et non, c'est pas quelque chose qui... Voilà, tu te réveilles pas avec cette envie-là. C'est au début, tu te forces et ensuite, ça devient une habitude, ça devient ton quotidien, ça te fait du bien et tu commences à voir les bénéfices, tu commences à voir les changements positifs et ça devient naturel. Moi, aujourd'hui, faire du sport, bon, évidemment, il y a encore des jours où je me réveille et j'ai la flemme, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de nécessaire pour moi parce que ça fait partie de mon quotidien, en fait. Ça fait partie de mon quotidien, j'en ai besoin, j'en ai envie, je sais que je me sens mieux après, je sais l'effet que ça a sur mon quotidien, et donc, je le fais, c'est un automatisme. Pareil pour mon alimentation, etc. Et ben, je me suis rendu compte que voir des gens et avoir une vie, et au niveau social, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Au début... Enfin, en tout cas pour moi, au début c'est compliqué. Surtout au début quand je commence à apprendre à connaître quelqu'un et que c'est la partie la plus compliquée pour moi parce que je suis assez mal à l'aise et que je sais pas quoi faire et que je sais pas quoi dire et que je me pose 36 000 questions, je vais avoir tendance à tout le temps avoir envie d'annuler et ne plus avoir envie de voir cette personne. Et ça a rien à voir avec la personne, hein. Ça a rien à voir avec la personne, c'est vraiment juste moi et moi. Et je me suis rendu compte que le fait de me forcer toutes les semaines, enfin en tout cas maintenant moi j'ai une règle, c'est que toutes les semaines, je me force à avoir au moins une interaction sociale, à aller à une soirée, à aller boire un café avec quelqu'un, à pas forcément à rencontrer des nouvelles personnes toutes les semaines, attention, hein, c'est des gens que je connais, mais de voir des gens au moins une fois par semaine, c'est hyper important pour moi, parce que sinon, si je ne me force pas à le faire, encore une fois, je me renferme et je me mets dans cette bulle où j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça me suffit, alors que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, encore une fois, et que même si je kiffe les gens qui m'écoutent et que je kiffe mes abonnés et que j'ai des potes entre guillemets en ligne que je n'ai jamais rencontrés ou peu importe, ils font pas partie de ma vie, tu vois. Ils font partie d'une vie qui est virtuelle et ils font partie... Ils ont que le highlight de ma réalité. Ils me connaissent pas vraiment, vraiment, vraiment à 100%, quoi. Donc, voilà, se forcer au début jusqu'à ce que ça devienne naturel. Genre là, par exemple, j'ai plus vraiment besoin de me forcer. Je sais que là, demain, je vais sortir et j'ai hâte. J'ai hâte de sortir et j'ai hâte de voir des gens. Et pour moi, c'est quelque chose de ouf parce que j'avais plus eu ce sentiment depuis super longtemps. J'avais plus... Vraiment, ouais, j'avais plus hâte en fait. Alors, c'est clair que j'ai toujours cette appréhension et que j'ai toujours cette angoisse de me dire, ben, ça se trouve, en plein milieu de la soirée, je vais avoir envie de rentrer et puis ça sera pas aussi bien que ce que je m'imaginais dans ma tête parce que je me fais un film et que voilà. Mais j'y serai quand même allée. J'y serai quand même allée et ça m'aura fait du bien. Donc ouais, ne pas penser que te forcer à voir des gens, c'est négatif. Au contraire, c'est un peu inconfortable au début, mais c'est justement... En te forçant un peu et en sortant de ta zone de confort que tu vas améliorer les choses et que ça va aller de mieux en mieux quoi. Et là moi je vois enfin, je vous l'avais dit que c'était mon objectif pour 2022, de voir plus de gens. Je suis pas encore satisfaite à 100% parce que j'ai envie de me faire plus de potes, j'ai envie de me faire des nouvelles connaissances. Ça fait super longtemps que j'ai pas appris à connaître quelqu'un. Enfin là pour l'instant je vois tout le temps les mêmes gens et j'ai vraiment envie de me faire des nouveaux potes. Donc ça reste toujours dans l'objectif. Mais encore une fois, c'est comme mon amour, hein, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose que tu vas... Tu cherches pas des potes en mode « Salut, je cherche des potes, haha. » Non, ça viendra quand ça viendra. Je m'inquiète pas pour moi, je sais que l'univers... Je suis devenue cette meuf insupportable qui met tout sur le dos de l'univers. C'est insupportable. Mais bref, l'univers me réserve des choses et ça viendra à moi. Et bref, avec un peu d'effort quand même de mon côté... Je parle depuis une heure maintenant, donc je vais arrêter. Il est déjà 10h30. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vais aller faire ma petite séance de sport et commencer ma journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai dû le réenregistrer parce qu'en fait, la première fois que je l'ai enregistré, il s'est effacé. Donc voilà, je suis quand même satisfaite. J'ai l'impression que celui-là était quand même bien. Mais on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je le dis parce que ça arrivera. Je vais enregistrer d'ailleurs le deuxième épisode aujourd'hui, comme ça j'aurai un épisode d'avance. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite encore une fois toujours à me suivre sur Insta, à me suivre sur YouTube si ça vous intéresse de voir un peu plus de ma vie. Et je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain épisode. Bisous. Show me.